Philosophie éthique, Père Philippe, 30 janvier 1997, Saint-Jean-d'Arc.
Lors d'un cours précédent, vous avez dit, c'est du vécu d'être finalisé. D'être finalisé. Est-ce que dans le vécu, la part du conditionnement n'est pas plus importante que celle de la finalité? Tout dépend de votre vécu. Pour des quantités de personnes, c'est comme ça. Mais dans l'analyse philosophique, ce n'est pas comme ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Notre vécu principal, c'est notre finalité. C'est notre vécu principal. Mais pour des quantités de gens, c'est pas le vécu principal. C'est la fin qui commande tout le vécu moral. Je vis mon vécu psychologique. Ce n'est pas ça. C'est l'accident qui vient d'arriver. Je me suis foulé le pied. Quelqu'un qui s'est foulé le pied, méchamment, hein, en déchirant un tendon avant le cours. Quel est son vécu psychologique? C'est qu'il a mal. Et qu'il n'arrive pas à dépasser ce mal. La finalité du cours, on la laisse loin. Première réaction de mon vécu. Finalisons ce mal. Ça, j'ai pas besoin de me donner la discipline. Elle arrive chez moi. Le vécu d'un saint et le vécu. Du pauvre homme qui a froid. C'est pour ça que c'est très important. Dans le vécu, vous ne distinguez plus. Et ça dépend de la subjectivité. Mais être finalisé implique un vécu. Oui. Alors, ce qu'il y a de très particulier, c'est quand on est finalisé, on dépasse le vécu. On est finalisé. Et c'est évident qu'être finalisé, c'est du vécu. Ça devrait être mon vécu primordial. Mais c'est rarement mon vécu primordial. Parce que je ne suis pas très rectifié. Si j'étais très rectifié, c'est ce vécu-là d'être finalisé qui commande tout. Finalisé. Le clochard, son vécu, c'est d'être clochard. Ça ne va pas beaucoup plus haut souvent. faut savoir ce que ça signifie. De voir une philosophie réaliste. Le vécu tout seul ne dit rien. Point de vue philosophique. Le vécu de la finalité est autre chose que le vécu des moyens. Si je suis réaliste, le philosophe, contrairement à la philosophe, ne s'intéresse-t-il pas plus à la finalité en elle-même que du vécu toujours imparfait de cette finalité? C'est sûr. Mais je peux parler du vécu d'être finalisé, qui n'est pas le même que le vécu d'être de du choix. Oui. Je dis ça exprès pour que vous compreniez qu'il n'y a pas de philosophie du vécu tout seul. Mais la philosophie réaliste comprend ce que c'est d'être vécu. Oui. Normalement, un philosophe réaliste va plus loin dans l'ordre du vécu que le phénoménologue. L'erreur du phénoménologue, c'est qu'il ne précise pas le vécu de la finalité, le vécu du choix, le vécu. Oui, le vécu devient la tarte à la crème. Tout est vécu. Alors dans le vécu, on va chercher un ordre. Et alors si vous cherchez un ordre dans le vécu, vous devez revenir à l'objectivité. Alors, le philosophe, contrairement au phénoménologue, ne s'intéresse-t-il pas plus à la finalité, mais il s'intéresse aussi au vécu, pour répondre au phénoménologue. C'est sûr qu'il y a un vécu de la finalité, qu'il y a un vécu du moyen, du choix, qui est différent. Et ceci pour faire comprendre que, de fait, on ne peut pas faire une morale au niveau de la phénoménologie. Puisque la morale dépend de la fin et pas du vécu. Oui, vérité. Et puis, celui qui vit uniquement de sa vérité à lui, de sa sincérité, c'est pas la même chose. Nous faisons une philosophie réaliste. La philosophie réaliste doit pouvoir répondre à la phénoménologie. La phénoménologie repose, vous voyez ce que je veux dire, sur du réel. Mais ce n'est pas le réel qui l'intéresse. C'est ce que j'ai digéré du réel. Ce que j'ai digéré du réel, la conscience que j'ai de ce réel, le vécu de ce réel, c'est ça qui l'intéresse, moi, c'est le réel. Mais le vécu m'intéresse aussi. Comment je vis la finalité dans un examen de conscience, c'est ce que vous vous demandez. Comment je vis de ma finalité? Est-ce que j'y ai pensé? Je tends vers la sainteté. L'union avec le Christ, c'est du vécu. Mais ce vécu est lié au réel quand j'ai l'émotion du vécu, de l'objectivité. Tout simplement un vécu qui vous réalisme, de l'éthique que nous faisons. Et comment vous pouvez, surtout en éthique, avoir une philosophie du vécu et que c'est la seule chose qui vous intéresse. Et vous ne voyez pas qu'à ce moment-là, la distinction entre la fin et les moyens s'estompe. Et que vous auriez un ordre inverse, presque sûrement, que l'ordre du réalisme. Pour le réalisme, c'est la fin qui commande les moyens. Dans le vécu, c'est quelquefois le moyen qui commande la fin. Parce que le vécu est plus immédiat et me touche plus. C'est sûr. Que penser analogiquement, hein, et très analogiquement, et c'est qu'il faut intéressant. Quand vous êtes en auto, que vous ne conduisez pas, pensez au vécu sur une grande route toute droite, et pensez au vécu sur une petite route qui tourne, qui tourne, qui tourne. Et pour être tout à fait objectif du vécu, bandez vos yeux. Petite expérience facile à faire, hein, et très intéressante au point de vue philosophique. Vous direz, quelle route impossible! On tourne tout le temps, et les tournants quand on ferme les yeux, c'est très curieux, hein. Ça vous donne un peu mal au cœur. Avant de donner mal à la tête. Oui, là vous voyez combien la phénoménologie est proche du sensible, de la conscience sensible, et qu'on dépasse difficilement ça. Oui, c'est bon de revenir toujours à l'expérience pour voir la diversité qu'il existe entre une philosophie réaliste qui implique toujours la réflexion et toujours l'induction, tandis qu'une philosophie du vécu, la phénoménologie, elle est descriptive. Alors, elle a l'immense avantage de la description qui nous touche, qui peut être poétique. L'induction n'est pas poétique. Alors, le danger de l'art pour le philosophe, pour l'éthique et la métaphysique, c'est qu'on reste dans le descriptif. l'autre côté. Oui, le choix est une réalité multiple. Multiple. Il y a de multiples manières de faire un choix intérieur, de faire un choix pratique. Et je vois les avantages. Oui, le choix va impliquer une description beaucoup plus que l'intention. Parce que je suis devant un moyen que je vois, que je touche. Un moyen, c'est ça. Un moyen n'est jamais abstrait. Attention, je vais réfléchir. Tout choix. essentiellement relative à choix. Essentiellement relative. Alors, si le choix est essentiellement relatif, on peut insister sur les diverses relations possibles pour choisir ce choix. Mais, parce qu'on choisit le choix, hein, qui nous met dedans. Le choix est vital, c'est nous qui le faisons. Et nous devons le faire après réflexion. Il y a des choix qui s'imposent quand on a fait plusieurs fois le même choix, ou un choix analogue. Quand on connaît celui à qui on fait le choix, parce que c'est ça qui est très particulier, c'est que le choix a ce caractère très particulier, c'est qu'il dépasse la réalisation. Je peux choisir pour un autre. Je ne peux pas avoir une intention de vie pour un autre. Impossible. Je peux choisir pour un autre. C'est très délicat du reste. Parce que je ne suis pas dans sa situation. On m'a donné qu'un seul renseignement. Je choisis en fonction de cela. Tandis qu'il peut y avoir des quantités de raisons différentes qui ont fait choisir ça. conseil pour le choix. Et c'est peut-être cela qui me fait le mieux comprendre ce que c'est que le choix. Je peux demander à un ami, je peux demander à un supérieur, je peux demander à quelqu'un qui a plus d'expérience que moi. Qu'est-ce que tu me conseilles? Alors, entre dans le choix. L'acte de conseil. Un autre qui intervient. Et cela, c'est aussi très important. Un autre qui intervient. Dans l'intention, je peux demander conseil, mais jamais l'autre ne me remplacera. Dans le choix, un autre peut me remplacer. Je viens acheter telle chose pour quelqu'un d'autre. Et nous avons choisi cette chose-là. Ou on m'a dit, j'ai confiance en toi, choisis. Pour moi, je peux choisir pour un autre. Tandis que je ne peux pas avoir une intention de vie pour un autre. Si je le considère comme un homme capable de prendre ses responsabilités. Je peux choisir pour un malade. Je peux choisir pour quelqu'un qui sait trop ses faiblesses. Un enfant. J'ai choisi pour toi. J'ai choisi pour toi. Parce que je sais que tu étais complètement incompétent. Et ceci, c'est constant. On vous présente un menu pour un repas. La phase principale pour les gourmets, c'est le choix. Et si vous êtes incompétent devant tous les titres qui sont donnés, quelquefois, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça représente? Je n'en sais rien. On choisit pour moi. Mais parce qu'on se sent incompétent et que ça quand même n'importe. J'ai confiance. Tu es un bon gourmet. J'ai confiance. Je ne demanderai pas ça à n'importe qui. Parce que sinon qu'une compétence, je crois toujours en avoir plus que lui. Entre deux incompétents, il ne faut jamais choisir quelqu'un qui n'est pas nous. Là, je vous donne un conseil. C'est un conseil. Un conseil omnibus, mais spécialement pour les menus. Parce que c'est immédiat. Il faut comprendre, évidemment, ce n'est pas très important le choix. Mais pour les gourmets, ah, le choix, c'est très amusant de regarder les gens qui choisissent. Surtout pour les menus. C'est très intéressant. C'est peut-être la partie la plus spirituelle du repas. Est-ce qu'on voit? Alors, il faut comprendre que le choix, ça a une gamme. Prenez le choix d'un ami. Ça touche de très près l'intention de vie. Le choix de, pour un repas, de savoir tel ou tel plat, ça ne regarde pas mon intention de vie. Ça reste au niveau du choix. Mais ça peut avoir des conséquences. Des conséquences au point de vue de ma vie, si je suis assez fragile quant à l'estomac. Attention, il y a une gamme extraordinaire, je crois, que c'est l'acte humain le plus varié, ouvert à toute la gamme des biens, ouvert à toute la gamme du mal, parce que le mal, le péché, est surtout dans le choix, moins dans l'intention. Heureusement. Oui, péché venir. réel péché grave, la vieille distinction, ce serait l'intention mauvaise qui porte sur la fin, l'intention mauvaise qui porte sur le moyen. C'est une distinction qui est plus facile à faire et qui est tout à fait exacte, vu du côté de la réalisation concrète. Manifester l'habit. Regarde l'intention, pas le choix. Et ça regarde les intentions de vie. Et ça manifeste quelque chose. Le choix. C'est pas parce qu'on a tel habit qu'on va choisir de telle façon. Tandis que l'intention, c'est tout de suite visible. On témoigne de ses intentions par un habit religieux. On ne témoigne pas de ses choix. C'est très étonnant, ça. Alors, quelquefois, on peut dire que l'intention est comme un choix. C'est vrai. Mais la différence, c'est que l'intention porte sur une fin. Alors, il y a quelquefois des fins intermédiaires qui sont comme des moyens. Mais est-ce que le choix d'un ami ne touche pas, ne touche-t-elle pas? Est-ce qu'il ne touche pas à l'intention? Une finalité. Parce que l'ami peut être tout ça, et touche aussi un moyen. Et pas comment. Mon amitié est-elle utilitaire? Mon amitié est-elle agréable? Mon amitié est-elle honnête? Si mon amitié est utilitaire, c'est un choix. C'est plus une intention de vie. Quand j'aurai plus besoin de toi, je te lâcherai. Mon amitié est-elle agréable pour la jouissance? C'est encore un moyen. C'est pas une fin.